Bonjour à tous. L'exécutif israélien est fragilisé. À chaque moment, il risque de tomber. Le gouvernement, mené par le Premier ministre Naftali Bennett et le ministre des Affaires étrangères Yair Lapid, n'est ni minoritaire ni majoritaire à la Knesset, où 60 députés de la coalition au pouvoir font face à 60 députés d'opposition. Résultat, ce gouvernement vient d'échapper à une motion de censure qui, si elle avait été votée, aurait conduit à de nouvelles élections. Si Bennett et Lapid dirigent encore le pays, ils le doivent également au parti arabe Ram. Ces 6 députés ont rejoint la coalition de gouvernement suite au dernier scrutin législatif. Cette participation et cette situation politique sont insupportables à l'extrême droite israélienne. Récemment, Shmuel Trigano, philosophe franco-israélien bien connu, écrivait à ce propos, je cite, « Les frères musulmans font la décision dans la vie parlementaire israélienne aujourd'hui. » C'est une assertion assez ignoble et il serait bon de comprendre vraiment ce qu'est le parti Ra'am, ce qu'il fait au gouvernement et ce qu'il reçoit en échange de son soutien à la coalition. Pour nous informer, nous recevons Shana Orlik. Shana Orlik est actuellement conseillère en charge des affaires de la société arabe auprès de Yair Golan, le vice-ministre de l'économie. Auparavant, elle a travaillé pour l'Organisation sioniste mondiale en tant que chef de projet pour la jeunesse. Shana Orlik est membre du parti Meretz. Shana, vous m'entendez ?
Oui, bonjour.
Oui, bonjour Shana, bienvenue sur notre antenne. On est content de vous recevoir à Radio Shalom.
Je suis très content d'être avec vous.
Voilà, c'est partagé. Alors d'abord Shana, est-ce que vous pouvez nous préciser assez brièvement quel est votre travail au sein de avec Yair Golan ?
Oui, bien sûr. Alors Yair Golan est dans ce gouvernement le vice-ministre de l'économie, ce qui inclut vraiment tous les domaines de l'industrie, du travail et de l'emploi. Et il est responsable particulièrement de certains sujets, dont la société arabe. Et moi, je suis sa conseillère donc, par rapport à cet agenda, avec pour but de coordonner en fait tous les différents départements au sein du ministère et mettre en place les décisions du gouvernement, faire passer les budgets et coordonner vraiment l'action du ministère en ce qui concerne la société arabe.
C'est très intéressant. Alors, Shana Orlik, vous êtes bien placé pour nous expliquer ce qu'est le parti Ra'am. Est-ce qu'il est vrai que ce soit le premier parti arabe israélien à se joindre à une coalition gouvernementale
et qui est... Oui. Oui, tout à fait. C'est vraiment un moment historique pour Israël. Par rapport à votre introduction, je pense que vous avez tout à fait raison. Ça pose des questions par rapport à un gouvernement israélien, une coalition qui tient en grande partie grâce à la participation de ce parti arabe dans la coalition. C'est un parti qui était plutôt discret quand il faisait partie de la liste arabe unie. Oui. Les dernières années, un parti qui était vu d'ailleurs plutôt sur les qui s'exprimait surtout sur les questions de religion, sur l'islam, sur un public vraiment très traditionnel, voire conservateur vraiment, et particulièrement au sein des Bédouins du Sud, du désert dans le Negev, qui est vraiment le public le plus qui soutient ce parti de façon vraiment évidente. Et un parti qui a vraiment changé du tout au tout, je dois le dire, depuis qu'ils sont rentrés dans la coalition, une prise de position beaucoup plus, je dirais, responsable, beaucoup moins d'opposition, beaucoup moins de critique du pays, avec des grands discours de son leader Mansour Abbas, qui vient parler de la légitimité de l'État d'Israël en tant que pays juif, des choses comme ça qui prouvent en fait son engagement à faire partie de cette coalition.
D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous préciser quel est le rôle de Ra'am au sein du gouvernement israélien ? Dans quelles conditions il a rejoint la coalition ? Et quels sont les bénéfices et les avantages qu'il en retire ou qu'il compte en retirer ?
C'est à la fois politique, c'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui très clairement que RAM a compris en tant que parti politique comment le jeu de la Knesset, du Parlement et de la politique israélienne fonctionnait. Au lieu d'être en dehors du jeu politique, du jeu législatif et exécutif, ce parti a décidé de se désolidariser des autres partis arabes et de rejoindre le gouvernement avec des demandes très claires. Et ces demandes, elles sont principalement pour remettre à niveau la société arabe sur tous les domaines, aussi bien dans l'emploi que dans l'éducation, que dans le tourisme, que aussi bien pour construire des routes et avoir accès à l'eau potable et à l'électricité, c'est-à-dire vraiment se mettre à niveau. Donc ce sont des demandes assez basiques et ils sont obtenus notamment, c'est vraiment ce qui a été retenu d'ailleurs comme grand succès, un investissement financier budgétaire de cette coalition, près de 30 milliards de shekels au sein de tous les ministères pour remettre à niveau la société arabe et arriver à un niveau à peu près semblable à celui de la société juive en Israël. Donc c'est vraiment, c'était ça leur but, c'est ce qu'ils ont obtenu et ça continue à tenir grâce à ça, avec cette vision de vraiment donner des budgets et d'améliorer le quotidien des citoyens arabes de ce pays.
D'accord, donc c'est surtout une demande économique et sociale. Dans ces conditions, pourquoi on dit toujours, enfin on dit, certains disent que c'est un parti islamiste. Est-ce que c'est un parti islamiste? Est-ce que c'est un parti qui représente les Bédouins du sud d'Israël? Qu'est-ce que c'est vraiment?
C'est la question, vraiment. Je pense que, et je vais vous répondre une réponse un peu à l'envers, je pense que quand on voit le parti de Naftali Bennett, qui était un parti avec une idéologie très claire, qui a su vraiment évoluer comme un parti de leadership, de prise du gouvernement, ils ont su évoluer. Et le RAM, c'est un peu la même histoire.
Vous parlez d'Yemina.
Je parlais exactement de Yemina, de beaucoup de partis qui ont su faire des compromis pour remplacer les années de gouvernement Netanyahou et prendre le pouvoir et proposer une alternative au sein de la société israélienne. Et je pense que RAM, c'est un peu la même histoire. C'était un parti qui cherchait son public et a trouvé vraiment une réponse, un électorat dans ce titre de parti islamiste, pas du tout relié à l'islamisme et au terrorisme qu'on connaît. Et je sais que c'est ça que ça rappelle quand on utilise ce mot.
Oui, quand on dit islamiste, ça évoque le djihad, quoi.
Tout à fait. Et je pense que pour eux, quand on voit par rapport à l'histoire du parti, les valeurs fortes de ce parti, c'était surtout par rapport à l'islam et les femmes, des positions assez conservatrices sur le statut des femmes, sur les droits LGBT, des choses vraiment très très conservatrices qui sont vraiment les lignes de l'islam conservateur.
D'accord.
De là à dire islamisme comme on l'entend en Europe, je pense que ça n'a jamais été vraiment le cas. Je pense que c'est toujours relié au narratif palestinien avec une envie de soutenir le narratif palestinien. Donc c'est une sorte de situation un peu complexe et qui a fait beaucoup, beaucoup peur au début. C'est-à-dire on s'est dit un parti islamiste au sein du gouvernement israélien. Mais je tiens à dire que c'est un pays quand même assez étrange, une coalition assez unique. Et au final, je trouve qu'ils ont su mettre de côté, comme beaucoup de partis au sein de cette coalition, mettre de côté les sujets qui fâchent et se concentrer sur le commun, sur l'union nationale, sur un gouvernement qui va servir la majorité des citoyens et mettre de côté, tant que possible, les choses qui divisent avec vraiment ce leader, Mansour Abbas, qui, je le connais personnellement, j'ai la chance de travailler avec lui assez régulièrement par rapport à mon travail, quelqu'un qui a su vraiment se montrer à la hauteur de ce challenge et savoir dire à son électorat, c'est notre moment, c'est le moment de défendre nos intérêts et de, on le sait qu'il avait prévu aussi ça avec Netanyahou, hein, c'est un bon
politicien. Il était déjà en plein début à l'époque, ça on oublie de le dire, mais bon.
Oui, oui, oui. Donc, voilà. Il a vraiment, voilà, il a été à l'intérêt, il a vu l'intérêt de son électorat. Il s'est dit, c'est le moment, que ce soit avec Netanyahu ou que ce soit avec Bennett Lapid, je vais tirer la couverture de notre côté. Et il a réussi parce que les budgets sont en train de passer. Il y a un plan quinquennal extrêmement impressionnant qui est mis en place et les choses bougent avec vraiment des résultats sur le terrain qu'on voit déjà en quelques mois de coalition.
D'accord. Alors dites-moi, est-ce que le parti RAM a l'assentiment des autres partis arabes de la liste unifiée quant à sa participation, en fait participation éloignée un peu, le soutien au gouvernement d'Israël actuellement? Est-ce qu'ils ont dit bravo, Monsieur Abbas, vous avez bien fait?
Non, ils n'ont pas dit bravo, ils se sont même séparés, plutôt en mauvais terme, avec cette décision de RAM. C'est, je pense, une question de, comment dire, de pragmatisme. C'est-à-dire, je pense qu'il y a eu, la décision a été prise et le clivage s'est imposé. En fait, sur trois partis arabes qui n'ont pas décidé de soutenir le gouvernement pour des raisons idéologiques, et RAM qui a décidé de rentrer dans le gouvernement pour des raisons pratiques et réalistes. Et là, on voit la différence. On voit d'ailleurs que les députés de la liste unifiée qui ne font pas partie de la coalition, toutes les semaines à la Knesset, au Parlement, on les voit, ils font des discours les uns après les autres qui sont idéologiques, qui défendent la cause palestinienne, bien plus qu'ils ne défendent les citoyens arabes israéliens au sein du Parlement. Et là, c'est là vraiment la rupture où RAM a décidé de payer le prix fort, mais d'aller vraiment s'embourber dans ce gouvernement, de prendre cette initiative et cette responsabilité pour le bien des citoyens.
D'accord. Et est-ce que vous pensez que cette initiative de RAM de soutenir un gouvernement israélien peut déboucher sur le fait qu'un jour, un autre parti arabe rejoigne une coalition sioniste?
Écoutez, moi, je suis au Meret, donc je l'espère profondément. Je pense que 21% de la population de ce pays doit être représentée dans son gouvernement, dans ses instances, et doit faire partie des décisions. Je pense que c'est une première qui, effectivement, marque un précédent. On ne pourra plus avoir les mêmes discours. C'est évident que je pense qu'il y avait énormément du discours politique, populaire, contre leur participation au gouvernement, qui était basée sur cette peur, sur cette hantise. Qu'est-ce que ça veut dire un parti non seulement arabe, musulman, islamiste au sein d'un gouvernement israélien, sioniste? Mais en fait, je pense qu'avec la réalité, c'est comme, vous savez, avant que Netanyahou parte du pouvoir, il y avait un sentiment que le pays allait s'effondrer. Sans Netanyahou, je pense qu'on était arrivé à un point où on pensait que c'était même plus possible de vivre sans Netanyahou. Il avait réussi à construire ce mythe et cette hantise de l'après Netanyahou. Je pense qu'avec les partis arabes, c'est un peu la même chose. Je pense que l'inconnu, on en a souvent peur. Aujourd'hui, ils prouvent dans leurs faits et dans leurs discours, je dois le dire, en hébreu, en arabe, devant tous les citoyens israéliens, qu'ils sont capables de faire partie d'un gouvernement sioniste, de faire partie d'un gouvernement avec des juifs, des religieux, des laïcs. Et je pense que pour l'État d'Israël, c'est une avancée exceptionnelle de voir qu'un gouvernement est capable d'être un vrai gouvernement d'union nationale avec cette diversité qui est une si belle diversité au sein du peuple israélien et qui est représentée aujourd'hui au pouvoir.
D'accord. Alors dites-moi, Shana Orlik, pourquoi le fait que le parti RAM soutienne la coalition excite autant l'extrême droite israélienne qui tire systématiquement sur Bennett et Lapid en disant que voilà, c'est les Arabes, c'est l'OLP, c'est le Hamas, c'est ce que je sais quoi, qui décide de la politique israélienne. Bref, tous les jours on entend des gens à droite et à l'extrême droite, notamment Netanyahou, attaquer le gouvernement actuel là-dessus.
Bah parce qu'il faut bien trouver quelque chose, non?
Oui, mais pourquoi là-dessus? Pour attaquer sur d'autres choses.
Je pense que c'est tout simplement des outils du populisme dont ils font preuve au quotidien depuis des années. Je pense que l'opposition, la droite et l'extrême droite, mais c'est important de dire la droite parce qu'il y a une radicalisation des valeurs du Likoud qui rend presque normal des discours complètement racistes. Voilà, parce qu'au fond, dire que faire tous ces reproches et toutes ces critiques au parti RAM, c'est faire des reproches et des critiques à la population arabe, et c'est dire qu'ils n'ont pas leur place au sein d'un gouvernement israélien, là où, et c'est surtout aussi énormément de politique et de mensonges. Netanyahou n'a toujours pas dit de façon publique qu'il avait effectivement rencontré Mansour Abbas pour essayer de former un gouvernement avec lui à trois reprises dans la résidence du Premier ministre à Balfour, des négociations qui avaient énormément avancé et qui sont tombées à l'eau grâce à la réussite des négociations du côté Bennett et Lapid. Donc je pense que c'est vraiment sans fond, c'est de la politique de bas étage à mon goût, c'est la politique de Netanyahou qu'on connaît bien, de séparer, de diviser, de monter une partie de la société israélienne contre l'autre, et c'est de l'incitation à la haine. On se souvient en 2015, je crois, aux élections, le jour des élections, à quelques heures de la clôture des votes, Netanyahou qui fait une vidéo en disant « Réveillez-vous, les Arabes arrivent en autobus qui sont payés par les organisations de gauche pour aller voter, réveillez-vous, les Juifs, allez voter ». Donc c'est toute une incitation à la haine qui continue. Personnellement, ça ne m'étonne pas. Je trouve ça déplorable, évidemment, parce que on parle de 21% de la société israélienne, et dont une immense partie ne veut juste que des droits égaux et faire partie de ce pays comme tout le monde.
D'accord. Une dernière question, parce qu'il nous reste peu de temps, hein, 15 minutes, ça passe vite. Répondez-moi vite. Est-ce que la venue de Mansour Abbas à soutenir la coalition a un lien avec, comment dirais-je, les difficultés dans la société arabe, notamment dans les bédouins du Negev, considérant la criminalité, toutes les histoires là
Bien sûr, ça faisait partie d'une de ces demandes, que la police et le gouvernement israélien s'occupent enfin de la criminalité, des drogues, des violences qui existent et dans la société des Bédouins du Sud. Je pense que c'était lui et ce parti-là le premier à dire nous demandons à ce que la police fasse l'ordre, parce qu'ils sont les premiers à en souffrir. Et je tiens à dire que d'ailleurs, depuis le nouveau gouvernement, le taux de criminalité a baissé d'un tiers dans la société.
Il y a des mesures qui ont été prises.
De mesures qui ont été prises, et je pense que c'est tout simplement en fait une réponse à un vide total qui servait bien les intérêts de Netanyahou quand il y avait la possibilité de montrer ce taux énorme de criminalité. Ça le renforçait politiquement, et aujourd'hui, ce gouvernement fait tout pour vraiment faire baisser ce taux de criminalité et aider les citoyens au-delà de la politique des intérêts de chaque parti.
Très bien. Eh bien, écoutez, le temps est passé. Merci beaucoup, Shana Orlik, d'avoir répondu à nos questions. On vous souhaite un travail fructueux et je souhaite une bonne semaine à tous et à toutes nos auditeurs. Je leur dis à dans 15 jours. C'était Paul Ouzimiyarsan à l'antenne de Radio Shalom avec Chronique pour la paix. Merci à tous.